beaucoup de bons intervenants et bonnes entrevues. On débute immédiatement le segment Farnell Morissette Lambert Drainville du vendredi. Je pense à ça, les gars, va falloir vous faire un petit bed. Petit bête d'entrée.
Ah ouais, on peut-tu avoir un jingle?
Ouais, on va faire ça. On va faire un jingle du vendredi. Qu'est-ce que t'en penses, Lambert Drainville?
Jeff, j'ai-tu besoin de te convaincre de mon amour des jingles?
Non, t'as pas besoin de me convaincre. C'est vrai, tu chantes encore la chanson Leadership Québec.
C'est mon réveil matin.
Non, mais attends, le Lambert, est-ce que tu veux la chanter, le jingle? Je pense que ça devrait être la belle voix de Lambert qui fait le jingle.
Ouais, je pourrais le chanter, puis écoute, dans la famille, on est bien fort là-dessus, nous autres, chanter des tunes, fait que... je suis pas trop là...
Rappelle-moi ouais, donc un événement avec ton père.
On pourrait faire un duo.
Ah, bah écoute, moi, si t'es down, je suis down. Je suis sérieux, là, tant que c'est pas quelque chose qui est trop exigeant sur les cordes vocales, là, s'il y a un petit chant, je suis partant.
Hey, moi, je serais partant qu'on fasse ça à deux sans blague. On laisse ça dans les airs, on envoie ça dans les airs.
Ouais, on envoie ça dans les airs.
C'est envoyé dans le
Je vais regarder avec notre producteur qui va être là lundi, Tommy Fontaine, puis on va checker qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est une excellente idée. D'ailleurs, allez-y par texto 418-971-101. Voulez-vous entendre un jingle chanté par Farnell et Lambert pour que je puisse convaincre mes patrons qu'on le fasse? Là, ça prend des réponses. Absolument. Les gars, je voudrais pas être dans les souliers de Paul Saint-Pierre Plamondon parce que c'est le congrès du PQ cette fin de semaine. Là, il est pris entre deux feux, entre une haine pour Donald Trump ici au Québec et au Canada, avec raison, avec ce que Donald Trump fait, et il est pris à ne pas prendre la défense du Canada parce qu'il veut se séparer du Canada. Comment Paul Saint-Pierre Plamondon va gérer tout ça? Farnell, je te lance la parole en premier.
C'est intéressant parce que j'ai l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon, présentement, il fait du pragmatisme classique. Mais il fait face à un monde où Mark Carney, cette semaine, a lancé ce qu'on pourrait appeler le nouveau pragmatisme économique de... Je veux dire, il a inventé un peu le terme « les puissances moyennes ».
Oui, en effet.
Nouveau terme dans le lexique politique mondial. Là, ça existait déjà dans les textes académiques. Mais alors, parce que le pragmatisme classique, c'est que oui, on va toujours être partenaire économique des États-Unis jusqu'à un certain point. Les États-Unis ne sont pas notre ennemi. On ne veut pas que les États-Unis soient notre ennemi. Je pense qu'on a tout intérêt à avoir des relations harmonieuses avec les États-Unis, même quand ils passent une chire un peu difficile. Mais est-ce que c'est être un bon ami et un bon allié de quelqu'un, avoir une dépendance économique quasiment complète sur cette personne-là? Je crois pas. Et sans nécessairement aller jusqu'à dire « bon, ben on va avoir une indépendance totale économique des États-Unis », je pense que ça, c'est même le nouveau pragmatisme de Mark Carney n'irait pas jusque-là. Peut-être que dire, au lieu d'avoir, je sais pas, 85-90% de nos exportations qui vont aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait en avoir 65? Puis avoir des canaux un peu plus ouverts ailleurs, comme ça, si jamais il y a des tensions, on n'est pas les mains complètement liées. Je trouve ça vraiment intéressant de voir Paul Saint-Pierre Plamondon essentiellement se coller à cette idée du pragmatisme classique que le Québec va toujours avoir une forte dépendance économique, on n'utilise peut-être pas le mot dépendance, mais une forte interrelation économique avec les États-Unis, et qu'on ne peut jamais s'imaginer s'éloigner complètement de ça. Tandis que Mark Carney vient de proposer au monde au complet une nouvelle façon de faire où ça va être les puissances moyennes qui vont se lier, se tisser de liens économiques entre elles pour réduire leur dépendance sur les superpuissances. Il y a un rattrapage dans le discours à faire avec M. Plamondon présentement, je pense.
Lambert, t'en penses quoi, toi? Est-ce que justement mentionner du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon qu'on va continuer à faire beaucoup d'échanges économiques avec les États-Unis, c'est venir se peinturer un peu dans le mur contre les patriotiques canadiens là, qui se servent justement de ce qui se passe aux États-Unis pour prôner le fédéralisme?
Non, je pense que j'ai tendance à abonder être dans le même sens que Farnell. Écoute, c'est une position qui est hyper délicate pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien honnêtement, dans le monde dans lequel on vit présentement, là, j'ai l'impression que chaque chef de parti ou chef d'État qui prend la parole, écoute, à chaque fois que j'écoute une prise de parole, que ce soit Mark Carney, que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, que ce soit les autres présidents, premiers ministres des pays du G7 ou des autres pays, des puissances moyennes comme Farnell parlait, tout le monde marche comme sur un fil de fer présentement. Puis tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut se rappeler que là, dans les différentes... l'épluchage de son livre bleu qu'il fait depuis quelques mois, ben, il a mis beaucoup l'emphase aussi sur l'importance du Québec de diversifier ses relations, d'ouvrir des bureaux à l'international dans des pays où présentement ils n'en ont pas. Alors, ben effectivement, là, de l'entendre dire que, au fond, on est un peu pris avec, puis il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve que c'est un petit peu, encore une fois, contradictoire dans l'optique où lui semble, du coup, donner une certaine valeur à ce que le Québec lui-même tisse des liens avec d'autres nations. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, à ce niveau-là, j'étais comme.
Non, en
Je
effet, tu...
voyais une autre contradiction, voilà.
en effet, tu marques un bon point. Est-ce que Mark Carney lui a fait une belle passe sur la palette hier avec son discours à Québec en parlant des plaines d'Abraham comme un milieu de réconciliation, alors qu'on s'entend, c'est une guerre qui s'est passée, ces plaines, entre les
Ouais.
Anglais et les Français? Je vois Lambert hocher de la tête en disant oui, vas-y avec ton
Ben
propos.
oui, c'est dommage, j'ai pas trop compris. Puis tu vois la différence, moi, écoute, comme tout le monde, j'ai trouvé son discours absolument. Brillant, bien honnêtement, je pense que
Celui de Davos,
ça.
tu veux dire, là, pas celui des plaines d'Abraham?
Ah, c'est ça, celui de
Ouais.
Davos, effectivement,
Ben oui.
qui a été salué aux quatre coins de la planète et j'abonde dans le même sens encore une fois, mais tu voyais la différence entre les deux discours. D'ailleurs, le discours à Davos, clairement, et c'est de nature publique, c'est lui-même qui l'a écrit. Tu voyais que ça venait du cœur, tu voyais que ça, c'est quelque chose à laquelle il réfléchissait non seulement depuis qu'il est premier ministre, mais probablement sur plusieurs et plusieurs années, remontant probablement même à quand il était dans le monde de la haute diplomatie. Et à l'inverse, quand tu écoutais son discours à Québec, tu voyais, d'abord, c'est en français, donc nécessairement, c'est pas lui qui l'a écrit. Et tu voyais que c'était beaucoup moins naturel. Tu voyais que ça venait pas nécessairement du cœur autant qu'à Davos. Et j'ai pas trop compris pour le timing de cette prise de parole-là, alors qu'il surfait sur une vague de louanges lui venant de partout au monde. Là, il est comme venu briser un petit peu cet élan-là. Puis là, j'écoutais les différents médias, les différents chroniqueurs, commentateurs sur les différentes plateformes hier. Puis tout le monde était comme un peu malaisé là, de sa lecture de l'histoire. Comme si, je veux dire, les Québécois ont, oui, moi, j'ai toujours dit que les Québécois ont la mémoire courte, sélective, mais s'il y a bien un élément sur lequel ils n'ont pas la mémoire courte et on se ramène à nos plaques d'immatriculation, c'est bien la nature de notre histoire et les grands moments comme bon, les patriotes, Louis Riel, les crises linguistiques, la conscription, crise d'octobre, name it. À ce niveau-là, les Québécois savent très bien ce qui s'est passé durant ces moments marquants de notre histoire.
Ah oui, très, 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 très d'accord avec toi. Farnèse, c'est une erreur de Mark Carney hier?
Ouais, je pense que ce que Mark Carney a appris cette semaine, c'est que Mark Carney est bien meilleur quand c'est Mark Carney qui écrit les discours de Mark
En
Carney.
effet.
Je sais pas ce qui a écrit ce discours-là, mais c'était certainement pas Mark Carney. Dans le fond, ce que
C'est quelqu'un
Lambert.
qui a échoué son cours d'histoire de secondaire 4.
Ouais, ou quelqu'un qui a peut-être pas les bonnes sensibilités
C'est
là-dessus,
ça.
ou tu sais, il y aurait une façon de dire que, bon, reconnaître que c'est pas un lieu où il y a de grandes paix, mais qu'il y a une paix qui s'est établie après. Par exemple, ça peut être un angle différent. Là, je vais pas commencer à écrire les discours de Mark Carney à sa place. Mais je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Mark Carney, quand il est lui-même, quand c'est un grand penseur économique, géopolitique, mondial, il est à son meilleur.
Exactement ce que Mathias nous disait tout à
C'est
l'heure.
ça. Quand il essaie d'être un politicien qui fait des beaux discours qui servent à flatter les gens dans le sens du poil, il est pas mal moins fort. Puis, écoute, moi aussi, j'ai écouté ça, puis j'étais comme, bon, c'est un peu absurde ce qu'il a dit, là. C'était pas sa meilleure. Espérons que c'est pas ça qui va passer à l'histoire. C'est pas mal
Bien
plus,
sûr.
je pense, le discours à Davos.
Je nous envoie tranquillement en transition vers la course à la chefferie de la CAQ parce que je réfléchissais à ça cette semaine, puis on parle beaucoup de cette fameuse troisième voie au Québec, de se détacher du je suis fédéraliste, donc libéral, Parti libéral du Québec, je suis séparatiste, Parti québécois. Puis est-ce que cette semaine, justement, ça nous démontre à quel point cette troisième voie-là est importante? Et je m'explique. On est présentement dans une guerre tarifaire avec les États-Unis, puis être unis dans le Canada, ça peut nous aider. On l'a vu avec la grandeur d'âme de Mark Carney cette semaine avec son discours. Donc, oups, ça laisse un peu de côté, pour un électeur comme moi, le PQ. Mais d'un autre côté, on n'a pas le goût de se ranger à 100% avec les fédéralistes parce qu'il nous arrive des discours à la Mark Carney où là, ça fait ressortir notre nationalisme, puis on dit « Hey, wait a minute, là. » On pas fait la... C'était pas un moment de paix, ça, là, c'était un moment de guerre. C'est-tu là que la CAQ vient vraiment bien se positionner? Lambert, tu as travaillé à la CAQ. Qu'est-ce que tu en penses de ma pensée versus ça?
Ben moi, j'aimerais ça, tu sais, quand même ramener le fait que c'était vraiment super son discours, mais par rapport à Mark Carney, je reviens toujours à ça, tu sais. Quels seront les gestes concrets? T'sais, quels seront les gestes concrets qui vont aller dans le sens de se tenir debout, de ce nouvel ordre mondial dont tu as parlé à Davos? Et what's in it for us au Québec? Et la vérité, c'est que quand tu regardes au fil de l'histoire, le Canada, quand il a été pris dans des enjeux où les intérêts des Québécois étaient divergents des intérêts du reste du Canada ou des intérêts d'une autre province au sein de la Fédération, bien, force est d'admettre qu'on a souvent été mis de côté. Fait que moi, les belles paroles, je trouve ça super, je trouve que c'est un super discours, mais j'ai hâte de voir s'il y a bien une chose depuis la campagne électorale fédérale l'hiver dernier que Mark Carney nous a montré, c'est qu'il ne semblait pas bien saisir là, la distinction québécoise. Je pense que pour l'instant, cette faille-là, qui est une de ses plus grosses failles, honnêtement, ouais, parce qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose depuis qu'il est en poste. Ce n'est pas les conditions difficiles non plus dans lesquelles il doit naviguer. Mais c'est sûr que j'ai dans l'esprit les négociations pour un éventuel accord de libre-échange à renouveler. Et je le regarde aller, puis je me dis, est-ce que c'est le gars qui va mettre son poing sur la table pour défendre la gestion de l'offre, l'aluminium, quand vraiment ça va être le crunch time? Et si l'histoire est garante du futur, on peut certainement en douter. Alors, j'ai hâte de voir. Puis en ce sens-là, moi, je trouve que ça va un petit peu dans le sens aussi, tu me poses la question sur la CAQ, mais la CAQ... C'est un parti qui s'est bâti autour d'un discours identitaire et national fort au sein du Canada. Mais moi, j'ai tendance à avoir quand même une opinion assez mitigée sur les gains concrets que ça l'a donné. T'sais, si je peux faire le lien avec ce que je viens de dire sur Mark Carney, au fil de l'histoire, quand il y a eu les intérêts divergents dont je parlais entre le Québec et le reste du Canada, les gains sont souvent nul, dans certains moments très mince. Et quand tu regardes le bilan de la CAQ en termes de, ben, pendant tout le premier mandat, ils ont matraqué, il faut plus d'argent dans le transfert en santé, il faut plus de pouvoir en immigration, il faut un paquet d'affaires pour améliorer l'autonomie du Québec. Et disons que les résultats à ce niveau-là sont, encore une fois,
mitigés. Oui, en effet. Farnell, est-ce que tu penses que je suis le seul à me sentir comme ça, à me sentir appelé par cette troisième voie-là cette semaine?
Ben, je pense que je ferai du village en premier sur l'idée que l'histoire est garante du futur. Je crois que si on regarde l'histoire beaucoup plus récente avec l'entente qui vient de se faire avec la Chine, on a quand même eu quelque chose de spécial qui s'est passé où l'entente entre le Canada et la Chine va ouvrir le Canada à des véhicules électriques chinois en échange d'une ouverture en Chine de canola et de porc. Le porc, c'est une énorme industrie au Québec. Et puis, c'est qui a été un peu le perdant cette fois-ci? Ça a été l'Ontario. Alors, si on regarde l'échange, l'entente la plus commune, le Québec en sort gagnant au détriment de l'Ontario présentement. Je pense que c'est peut-être pas en soi signe de ce qui s'en vient, mais c'est peut-être signe que, je dirais plutôt que la troisième voie a fait son travail. Si on regarde l'état politique, surtout québécois, avant cette espèce d'idée de la troisième voie-là, t'avais le souverainisme séparatiste pur et dur. On s'en va, puis après ça, on va se gérer nous-mêmes. Puis t'avais le fédéralisme où, je veux dire, le Parti libéral du Québec brandissait encore le drapeau canadien puis son passeport comme si c'était une grande fierté. Aujourd'hui, c'est plus ça la réalité, je pense, tant d'un parti que de l'autre. On a un parti québécois qui dit « Oui, on veut faire la souveraineté, mais on va immédiatement négocier avec le Canada pour avoir des ententes. On va avoir des ententes de partenariat. On va partager la monnaie pendant au moins 10 ans. » Alors, on parle d'un souverainisme pour quand même revenir vers un rapprochement renégocié avec le Canada. Puis du côté du Parti libéral du Québec, présentement, ben, on parle quand même de mettre le Québec en premier. On parle ouvertement de la nation québécoise. On parle aussi de vouloir continuer à renégocier, toujours renégocier l'entente avec le Canada. À quel point est-ce que ça va se faire là? Je veux dire, on le sait pas, là. On sait que la CAQ a parlé de le faire pendant très longtemps, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un effort particulièrement concerté, peut-être pas concerté avec les autres provinces non plus. Mais l'idée maintenant de cette troisième voie-là, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, on veut revoir l'entente avec le Canada. On s'en va pas complètement, mais c'est pas le statu quo non plus. Ça, je pense que c'est le résultat du travail de les 10-15 dernières années de cette troisième voie-là qui est rentrée dans le discours politique général. Alors, je ne suis pas prêt à dire que c'est nécessairement... Tu n'es pas le seul à te sentir attiré par ça. Clairement, les souverainistes et les fédéralistes se sentent attirés par ça aussi.
Ouais. Merci beaucoup, Farnell, de me réconforter dans mes... Vous écoutez l'émission Dans Jazz, c'est le segment Farnell-Morissel-Lambert-Drainville. C'est à chaque vendredi, environ de midi à 12h30. Farnell, tu es quelqu'un que j'admire. Tu as toujours une pensée très logique. T'aurais pu te présenter à la chefferie de la CAQ, selon moi. Puis, avec les followers que t'as sur TikTok, t'aurais pu vendre des cartes de militants puis être élu premier ministre du Québec.
Ben écoute, c'est clairement de ma faute si la CAQ a choisi ses règles actuelles.
Exactement. C'est-tu à cause de toi ou d'Olivier Primeau qu'on a demandé 15 députés?
C'est drôle à dire parce que initialement, quand j'ai vu cette règle-là, je me suis dit, ah, c'est un peu dommage. Justement, on parle de, dans les règles de la course à chefferie, il va falloir avoir un minimum de 15 députés actuels de la CAQ qui appuient la candidature. J'ai vu ça comme, ah, ben c'est un move anti-outsider, c'est un move anti-renouvellement. Et c'est le genre de choses qui m'aurait peut-être déçu d'un parti politique dans n'importe quelle situation autre que celle de la CAQ actuellement, puis je m'explique.
Hey, oui, vas-y, ça m'intéresse.
C'est que la CAQ, présentement, est dans une situation très spéciale où le prochain chef de la CAQ devrait normalement devenir premier ministre. Est-ce qu'il va rester premier ministre très longtemps? Ça va être à cette personne-là à décider. Ce qui veut dire que je pense que la CAQ a vu la possibilité, ou au moins le risque. Puis là, imaginons le pire scénario imaginable. On ne parle pas d'un Olivier Primeau, là. Imaginons un radical. T'sais, le chef d'Atalante, par exemple, qui lui, il est peut-être capable d'aller chercher 1000 signatures dans 75 circonscriptions différentes du Québec, de ses membres, dans ses groupes Facebook, puis les espèces de recoins de l'Internet un petit peu trash. Et forcer une discussion à savoir est-ce qu'on exclut cette personne-là ou pas, sans avoir une règle claire pour le faire, c'est le genre de choses, c'est une distraction que la CAQ veut pas, mais aussi je pense que c'est une distraction que le Québec, en général, a pas besoin d'avoir. Alors, même si c'est une mesure qui, oui, va en effet bloquer un espèce de renouveau profond du leadership de la CAQ, je crois que vu la possibilité que cette personne-là devienne premier ministre, et ça prend pas énormément de votes, je veux dire, ça va être des votes des membres de la CAQ, on parle de ce que j'en comprends, tout au plus 15 000 personnes, on peut pas se mettre dans une situation où quelqu'un hijack le parti sans savoir ce qu'il va en faire, sans savoir où est-ce qu'il va avec ça, et devienne aussi automatiquement premier ministre. C'est vraiment ça la nuance. Puis je pense que malgré que oui, ça va bloquer un renouveau, je crois que dans l'ensemble, dans les circonstances très spécifiques actuelles, c'était peut-être le move responsable à faire.
J'adore ton point de protéger la fonction de premier ministre, qui est une fonction tellement importante.
Assurer une certaine continuité, oui, aussi, vu que cette personne-là rentre sans mandat populaire.
En plein ça, en même temps, je me disais justement la même chose. Je me disais, c'est vrai que ça prend quelqu'un qui est dans machine présentement pour assurer cette transition-là jusqu'à l'élection du mois d'octobre. Parce que dans les faits, il va devenir premier ministre le 12 avril, mais on est en campagne électorale cet été.
Ouais.
Fait qu'il va être premier ministre pour deux mois.
Oui, mais c'est, encore une fois, imaginons, le pire scénario imaginable, un hijack par un radical qui arrive, il dit « c'est moi le premier ministre, j'ai le pouvoir, s'il est capable de se rallier assez du caucus qui veulent absolument garder leur siège », il dit « ben on n'aura pas d'élection, j'ai le droit techniquement selon la Constitution de pousser s'il faut ». Puis là, ben là, il y a le champ libre, un gouvernement théoriquement majoritaire. T'sais, on est dans les fantabulations, là, je pense pas que ça arriverait, puis je pense qu'il y aurait plein d'autres, il y aurait des débats juridiques interminables.
Ben oui.
Mais pourquoi s'ouvrir à cette possibilité-là quand tu peux faire le move raisonnable et dire « dans notre situation actuelle, donnons-nous une protection additionnelle. »
Lambert, es-tu d'accord avec Farnell?
Oui, puis tu sais, oui, c'est certainement, comme Farnell l'a dit, ça permet de mettre des balises sur un candidat vraiment venu du champ gauche ou du champ droit, si tu me permets l'expression. Un Olivier Primeau également, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, je pense à par exemple, est-ce que ça empêche complètement les candidatures venues de l'externe? Non. Tu sais, si on se met dans la peau d'un Guy Cormier là, qui a fermé la porte, mais si jamais il avait voulu y aller, que Guy Cormier aurait été en mesure de rallier l'appui d'au moins 15 députés, sachant que selon les règles, un député peut signer plus d'un bulletin de candidature. Est-ce qu'il y a des caquistes qui auraient jugé que Guy Cormier, vu son parcours, a une réputation assez crédible pour possiblement reprendre les rênes de ce parti-là? Possible. Fait que ça ferme pas la porte complètement à une candidature venue de l'externe, mais c'est sûr que ça diminue grandement les chances. Et j'abonde dans le même sens que vous quand Farnell parle d'une certaine continuité. Je pense que c'est sûr que pour un... Disons qu'en matière d'instabilité de l'État, j'ai donné l'exemple de Guy Cormier, ben c'est quand même un gars qui n'a pas l'expérience politique, c'est quand même un gars qui n'a jamais gouverné, qui n'a jamais été au gouvernement. C'est tout un défi, mais On l'a vu avec Mark Carney, tu sais, ça se peut. Ça se peut.
Ouais.
C'est très, très, très rare. Puis on en a déjà parlé, Jeff, l'exemple de Mark Carney. Moi, je ne suis pas trop friand de ça, là. Je trouve que c'est une espèce d'épisode de l'histoire politique canadienne qui est plus une donnée aberrante qu'autre chose. Mais n'en demeure pas moins que c'est un gars qui est arrivé sans expérience politique et qui, mine de rien, depuis, fait un travail plus que louable.
Vraiment. Lambert, je termine la chronique avec toi. Christine Fréchette se lance officiellement à Trois-Rivières dimanche. As-tu des informations concernant Simon Jolin Barrette, Bernard Drainville ou d'autres candidats qui se lanceraient prochainement également?
Ben, c'est sorti publiquement. Je pense que Bernard Drainville, ça devrait être dans les prochains jours. C'était sur le site de Radio-Canada. Christine Fréchette, oui, effectivement, ce sera à Trois-Rivières dimanche. Elle, c'est sûr que elle cherche à tout prix à se distancer le plus possible de l'image qu'on lui accole déjà d'une fille
De
de Montréal
Montréal.
qui a été à la Chambre de commerce, présidente de la Chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal, dans le comté, dans la grande région de Montréal. Fait que c'est logique pour elle de vouloir commencer tout ça en région, à Trois-Rivières. Et mine de rien, tu sais, il y a plusieurs appuis notables qui sont encore dans l'air, plusieurs ministres qui ne se sont pas encore positionnés et plusieurs ministres majeurs, l'un étant Jean Boulet, qui est le député de Trois-Rivières, qui est très chauvin, très fier de
Oui.
son petit coin.
Il a dit tout à l'heure, cependant, à l'émission de Mario Dumont, qu'il ne donnait pas son appui pour le moment à Christine Fréchette, qu'il voulait encore réfléchir.
Exact. Mais on peut quand même se penser que si Mme Fréchette peut mettre les chances de son côté autant dans l'optique de s'éloigner de ce spin-là qu'elle vient uniquement de Montréal, qu'elle parle uniquement pour Montréal, et en même temps, ben, possiblement se mettre dans les bonnes grâces de Jean Boulet, ben, je pense que c'est tout à son avantage. Mais tu sais, Simon Jolin Barrette, ce que j'entends, c'est étrange. J'ai l'impression que Simon Jolin Barrette, il y a quand même une partie de lui qui. Il y a une partie de sa réflexion qui est alimentée beaucoup par les élus qui ont pris son bord et qui l'appuient dans cette course à la chefferie-là. Je ne sais pas si Simon-Jolin Barrette serait aussi. Disons, que si l'aiguille pencherait autant du côté de se lancer si ce n'était d'autant de pression de ses amis et collègues du caucus.
Ouais, ça a l'air attenté à plus ses partenaires du caucus que lui-même.
Ben, je ne sais pas dans quelle proportion, mais chose est certaine, je sais que lui, bon, c'est sorti publiquement là, que, tu sais, il y a des jeunes enfants, il y a une situation familiale qui est peut-être pas idéale présentement, que c'est quelque chose qui pèse dans sa réflexion, mais que justement, comme je le soulève et comme tu viens de le dire, le fait d'avoir plusieurs personnes qui sortent fortement pour lui rapidement. Je trouve ça, c'est sûr que ça lui met de la pression personnellement. Et maintenant, on va suivre la suite des choses. Faut faire attention aussi avec ça, là, les appuis. Moi, on dirait que j'ai un grand respect pour les élus, puis les députés, puis les différents membres du parti qui, t'sais, qui sont patients, là, parce que je
Ouais.
trouve que ça va vite. T'sais, M. Legault, écoute, une semaine, était encore premier ministre, était encore premier ministre, mais avait pas encore annoncé qu'il quittait. Et c'est une grosse décision. Il n'y a personne qui a fait de proposition encore. On ne sait pas qui va proposer quoi sur les régions, sur tout l'enjeu du PEC. T'sais, on en a tellement parlé, le troisième
T'as
lien. T'sais,
raison.
un paquet de gros enjeux sur lesquels les différents candidats vont se distinguer. Je trouve qu'il y en a plusieurs, même des gros joueurs au gouvernement, t'sais, qui me surprennent à sortir aussi rapidement avant d'avoir entendu quiconque faire une seule proposition, là.
Non, en effet, t'as entièrement raison. Farnell Morissette, Lambert Drainville, c'est notre segment du vendredi à compter de midi. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation encore une fois.
Toujours un plaisir, toujours un plaisir de parler avec Lambert.
Yes, je vous souhaite un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Salut les
Merci.
boys. Salut. Après la pause, deux choses pour vous. Irénée Rutema, notre chroniqueur en politique municipale, qui va venir nous voir, va nous parler d'un Bruno Marchand qui voit au septième ciel et également de Stéphane Lachance qui fait de plus en plus un bon rôle de chef de l'opposition. Et on va parler avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, de cette arrestation historique de Ryan Whiting, sûrement le criminel le plus important jamais vu dans l'histoire canadienne. Donc, restez avec nous. Vous êtes à l'émission Dans Jase sur Boulevard 102.1.
Jase jusqu'à 14 h.